Je trouve que c'est un bon petit joueur de hockey, puis ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un qui était capable de la mettre dedans, comme Cole Caulfield. Et là, de savoir qu'il devait quitter, ben, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est beau, on abandonne peut-être pour cette année, on va essayer de faire notre possible. Mais là, en fin de semaine, contre les Maple Leafs de Toronto, je m'attendais à une défaite, une cuisante défaite. Ben non, on t'en sort une grosse, victoire 3-2.
Ouais. C'est quand même très, très... c'est bizarre, on ne sait pas trop. Mais ce que je veux dire simplement, c'est quand le club va mal, on dirait que les blessés... Les petits bobos deviennent plus gros. Je parle pas de Caulfield de façon particulière, là. Mais je me souviens de Subban, à un moment donné, qui était tombé. Il s'était fait une, je sais pas s'il s'était fait une commotion, mais il était dans la zone défensive du Canadien, puis il était tombé, puis il avait arrêté de jouer pendant plusieurs mois. Ça m'avait frappé. Parce que je m'étais dit, je sais pas si on était premier au classement, puis qu'on était dans la série de la Coupe Stanley, s'il serait aussi malade. Je pense pas. Mais quand le club va pas bien, c'est sûr que, pas grand monde pour le noter, hein.
Ouais, c'est super. En même temps, quand on est rendu, quand on est sur le point de faire les séries, puis où on est rendu en série, on se dit on en donne plus, même si on est blessé. Tandis que si la saison est pratiquement morte, tu dis bon, aussi bien de faire ces changements que j'ai à faire là. En espérant que ça aille mieux pour M. Caulfield pour ce qui est de ses épaules la saison prochaine, en route vers Connor Bedard.
Ouais, c'est ça. Ça sera le fun, je sais pas là. C'est sûr que des premiers choix. C'est important, mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, les Oilers d'Edmonton ont ramassé, en l'espace de 5 ou 6 ans, quasiment chaque année, des joueurs repêchage. Et puis, ça leur a pas donné à Coupe Stanley. Hein. Il y a des fois que tu as des choix au repêchage, des premiers choix, très, très prometteurs. Puis, dans la Ligue nationale, c'est pas évident, ils ont de la misère à s'adapter. Ça dépend. En tout cas, je leur souhaite d'aller chercher le premier choix qu'on a Bédard l'an prochain, c'est certain. Mais en même temps, ça prend une bonne chimie dans l'équipe. Ça prend un bon entraîneur, ça prend un bon esprit d'équipe, ça prend un capitaine stimulant. Il y a pas juste le talent, hein? Il n'y a pas juste les premiers choix, il y a aussi l'atmosphère. Montréal, je sais pas ce qui se passe dans cette ville-là, mais des fois, on a l'impression que les joueurs, je sais pas si tu te souviens de Brière, l'autre là, qui venait de New Jersey, là, qui avait compté juste un but à la fin de la saison.
Ou en même temps, Briand était ici en fin de carrière. Il n'était pas ici à son pic.
Oui, je sais. Mais tu sais, je te dis qu'il y a toute une culture d'équipe aussi qu'il faut reconstruire à Montréal si on veut vraiment avoir un club gagnant. Il suffit pas d'avoir des nombres, des premiers choix. Il faut être capable de leur donner le goût de jouer puis de leur donner le goût de se dépasser.
Effectivement. Rentrons dans nos dossiers, Maître Bellemare. Vous m'avez choqué, hein? Vous m'avez envoyé un article du Quotidien, un article de Normand Boivin, puis on nous parle d'un individu qui vient d'écoper de 20 mois de prison pour avoir filmé sa belle-fille sous la douche.
Ouais, c'est assez pervers, merci. Mais écoute, c'est pas la première fois. Hein? Je sais qu'à Québec, il y a eu plusieurs condamnations pour la même raison.
On a même eu un policier. Un policier qui faisait la même affaire. Puis lui, ouais. Il a été déclaré non coupable parce qu'il disait que lui, c'était pour la sécurité de sa famille.
Ouais, c'est ça. Mais regarde, aujourd'hui, avec la technologie, là, tu peux avoir des caméras là, qui sont épais comme des lames de rasoir, là, comme des mines de crayon, là. Tu mets ça à n'importe où dans le bureau ou dans la maison, puis ça peut te donner des enregistrements de vidéos. Alors, c'est pas tellement compliqué, c'est pas très coûteux, mais ça peut causer des dommages importants. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille-là. Le bonhomme a 48 ans. Il a pogné 20 mois de prison. La couronne demandait entre 15 et 24 mois. Encore là, il était pas sûr. Encore une fourchette, 15 à 24 mois. Le juge a donné 20 mois de prison. Lui, là, il installait une... à chaque fois que la petite fille de 13 ans voulait prendre sa douche, mais il rentrait dans la douche avant, puis il y avait toujours quelque chose à faire, pas dans la douche, mais dans la salle de bain.
Oui, à chaque fois qu'elle voulait prendre sa douche, à chaque fois qu'elle voulait prendre sa douche, lui, il se dépêchait à rentrer juste avant, tapu, puis il allait installer son stuff.
Il y avait un petit pipi, il avait besoin d'un Kleenex, il y avait ci, puis il y avait ça, puis ça prenait un certain temps. De sorte que la jeune fille, à un moment donné, a eu des doutes, alors elle a vérifié un peu partout, elle n'a rien trouvé. Et à un moment donné, elle a eu la bonne idée. Elle avait 13 ans, mais ça était quand même wise. Quand le bonhomme est rentré, à un moment donné, elle est rentrée en même temps, puis elle l'a pris en photo, en train d'installer la caméra dans une plainte de chauffage.
Oui, dans le calorifère.
Ouais, c'est ça. Alors, une plainte de chauffage, c'est le calorifère, effectivement. Alors, ça s'est déroulé, semble-t-il, entre mars et octobre 2020. Alors, tu te souviens que c'est en pleine pandémie. Alors, tout le monde est dans la maison, puis le bonhomme a dû se rincer l'œil abondamment. Alors, 48 ans, lui, il avait deux enfants avec cette femme-là, mais elle avait une jeune fille d'une précédente union. Alors, il y avait le petit kick, sa fille de 13 ans, qui était un peu plus vieille. Et puis, alors, son avocat a demandé la peine minimale de 12 mois, mais le juge a donné 20 mois de prison. Mais ça me fait toujours penser. Je comprends que les filles, bon, on a le droit de refaire notre vie, là. Mais je reçois souvent des femmes au bureau comme ça qui ont des nouveaux copains, qui ont des nouveaux chums avec qui ça va plus ou moins bien, avec qui ont déjà des enfants d'une union précédente. Puis je pose toujours la question, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes sûr que vos enfants sont en sécurité? Des fois, il y en a qui sont choqués que je leur pose la question. Ben non, ben y'en donc, M. Bellemare. Ben non, non, ben je te pose la question parce que tu dois penser à tes enfants avant tout, tu sais. Je comprends que tu as un chum, là, mais tu dois penser à tes enfants avant tout. Puis assure-toi, régulièrement, pose des questions à tes enfants pour être certain qu'il n'y a pas des comportements déviants ou qu'il n'y a pas des problèmes. Il faut qu'ils soient informés parce que le loup peut être dans la maison, hein? Ouais. Et dans ce temps-là, ça demande davantage de vigilance. Je ne veux pas accuser personne, mais on n'est jamais trop prudent, même si c'est une nouvelle flamme, une nouvelle union. On a le droit de refaire notre vie, mais il faut toujours être prudent parce que ce genre de situation-là n'est pas exceptionnel.
Ah ouais, puis je vais m'en permettre un peu plus, Maître Bellemare. Je pense que dans ce dossier-là, chaque torchon trouve sa guenille parce que cet homme-là a été arrêté par les policiers. Les policiers ont retrouvé des images de la jeune fille, des images qui avaient été effacées, là, donc j'imagine qu'ils sentaient la soupe chaude, là. Les policiers ont réussi à retrouver les images qui avaient été effacées. On a mis au courant la mère de cette jeune fille-là et la mère de cette jeune fille-là rester avec le salopard et la jeune fille a dû aller rester à son père et dans une famille d'accueil, de ce que je comprends, là, et elle s'est ramassée même en psychiatrie. Sa propre mère l'a abandonnée pour un beau salaud.
Ouais. C'est dégueulasse. Et si ça suffit pas, là, filmer sa fille dans la salle de bain, ça se passe dans la maison où il demeure. Moi, j'aurais même peur pour mes propres enfants, même ceux que j'ai eus avec le gars en question. Si ça suffit pas pour faire comprendre à madame que ce gars-là n'a pas d'affaires dans sa vie, il y a un problème important du côté de la mère, évidemment. Et puis, écoute, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a une DPJ, puis c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être secourus. C'est une situation proprement inacceptable. Ça a duré, cet événement-là a duré 6-7 mois. Est-ce que la mère est au courant? Est-ce que la mère aurait dû avoir des doutes? Mais à partir du moment où elle n'en a pas de doute, mais que l'individu est non seulement accusé, il y a une présomption d'innocence, c'est vrai, mais qu'il est en plus de ça condamné, elle continue de rester avec, malgré le fait que sa fille soit traumatisée, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, des problèmes cognitifs, des problèmes de fréquentation scolaire, alors que la jeune fille a 13 ans, est au cœur de son développement. Moi, je trouve ça dégueulasse.
Oui. J'ai retrouvé l'article d'Isabelle Mathieu dans Le Soleil qui nous parle d'un policier de Québec qui a été déclaré coupable de voyeurisme. C'est un sergent du service de police de la Ville de Québec. Son nom, c'est Denis Godreau. Lui, il a plaidé coupable à une accusation de voyeurisme, puis il a admis avoir installé une caméra dans une douche et il a pu obtenir une absolution conditionnelle à une probation et à un don. C'est un policier de 53 ans qui, lui, pauvre garçon, il a éclaté en sanglots dans la salle d'audience au moment de reconnaître les faits. Policier qui a admis avoir installé une caméra dans la douche d'une résidence de Lac-Saint-Charles. C'est une femme dans la quarantaine qui a fini par trouver une quinzaine de photos d'elle et de ses filles âgées dans la jeune vingtaine dans une tablette électronique du policier. Il y avait aussi 4 photos explicites dans le téléphone cellulaire personnel du policier. Puis lui, il disait que bon, il n'y avait pas d'intention sexuelle, c'était une application qui était reliée sur sa tablette, puis il voulait juste exercer une surveillance sur la maison. Puis le juge semble l'avoir cru, puisqu'il a donné une absolution conditionnelle.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, regarde, pour moi, j'aime mieux 20 mois de prison, là, n'est-ce pas? Je pense que 20 mois de prison, c'est même raisonnable, même minimal. Il aurait bien pu pogner plus que ça, parce que la peine minimale est de 12 mois pour la production de pornographie juvénile, parce qu'on appelle ça de la pornographie juvénile.
Oui.
C'est de filmer des images d'enfants mineurs, que ce soit à leur insu, à 13 ans, qu'ils soient consentants ou pas, ça demeure de la pornographie juvénile. C'est tellement difficile de pogner ces gars-là, parce qu'ils sont, en général, assez intelligents pour cacher tout ça. des caméras cachées, pas de preuves. Alors, n'eût été de la vigilance de cette jeune fille-là, ce gars-là continuerait de faire des siennes. Et il faut aussi comprendre, je veux te parler d'IVAC là-dedans, là, parce qu'IVAC, c'est le système d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Cette jeune fille-là peut avoir une thérapie payée par IVAC. Et c'est important de réclamer pour avoir au moins la thérapie psychologique, parce qu'elle risque de garder des séquelles de ça. Et des fois, moi, j'ai des gens qui viennent au bureau qui ont été agressés ou qui ont été l'objet de crimes sexuels de cette nature-là à l'adolescence. Ils s'en sont pas trop occupés. Les parents ont pas trop bougé. Puis à un moment donné, à l'âge adulte, ils sont dysfonctionnels. Ils gardent pas leur emploi. Ils ont besoin de thérapie. Ils sont pas fonctionnels au travail. Et dans bien des cas, les délais de réclamation sont dépassés. Ou bien il est trop tard pour faire la preuve parce que les documents sont disparus, les médecins sont décédés. Alors, c'est important que cette jeune fille-là fasse sa réclamation puis qu'elle puisse avoir une thérapie aux frais d'IVAC. S'il y a quelqu'un qui a le droit d'avoir ça, c'est bien elle.
Maître Bellemare, prochain sujet, j'ai une question à vous poser. Jusqu'à quel âge on peut être appelé à devenir juré pour un procès qui se déroule, je sais pas moi, au Québec?
Ça a l'air que c'est éternel. Puis d'ailleurs, ça m'a surpris beaucoup parce que c'est Radio-Canada qui nous rapportait ça. Une femme de 99 ans qui a été menacée de poursuites et d'accusations en lien avec le fait qu'elle ne s'est pas présentée à la sélection des jurys. Pour faire une petite histoire courte, s'il y a des procès devant jury, un jury, c'est composé d'un ensemble de jurés, E accent aigu. Alors, pour confectionner le jury, il faut, à partir de la loi de la liste électorale, aller chercher des gens. Et par définition, si vous êtes sur la liste électorale, vous avez au moins 18 ans. Alors, ce qui arrive, c'est que le système choisit un certain nombre de personnes qui sont convoquées pour comparaître pour la sélection du jury. Et à ce moment-là, ben, les avocats peuvent, dans certains cas, répudier tel ou tel candidat. Ils veulent avoir plus de femmes, plus d'hommes, ils veulent avoir des jeunes, des plus vieux, ça dépend du crime dont leur client est accusé. Et à ce moment-là, pour certains motifs, ils peuvent répudier le témoin, pour d'autres, ils peuvent le répudier sans raison. Alors, il y a tout un système pour choisir le jury. Et Mme Marion Lenko est une femme, voilà au nom, de 99 ans. Elle est alitée dans un centre d'accueil à Montréal. Et 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, elle est complètement incapable de fonctionner, mais elle est toujours vivante. Et on lui a envoyé un avis pour comparaître comme juré, donc pour faire partie, si tu veux, du groupe à partir duquel le jury allait être constitué. Évidemment qu'elle n'a pas répondu à ça. La lettre a été envoyée au centre d'accueil. Alors, en partant, tu te dis, ben coudonc, y a-tu quelqu'un qui a réfléchi, là? Envoyer ça dans un centre d'accueil. Un CHSLD, en principe, les gens sont pas trop en forme. Hein?
99 ans, la dame est nourrie à la main, est alitée, elle n'est pas capable de bouger.
Oui, c'est ça. Alors, le document est envoyé au centre d'accueil. Après ça, ça a été envoyé à son ex-gendre, parce que sa fille était, l'individu qui demeure en Floride était marié avec sa fille qui est décédée, mais son ex-gendre avait gardé un bon lien avec Mme Lenko. Alors, lui, il essaye d'appeler au numéro de téléphone. Ça marche pas, c'est numérisé. Et finalement, il reçoit une lettre comme quoi ça se présente pas avant le 31 janvier, à risque d'être poursuivi. Je trouve ça épouvantable. Je trouve que c'est une bureaucratie sans cœur et sans âme. Tu téléphones là, tu n'as jamais personne qui répond. C'est des numéros, c'est le gouvernement. C'est compliqué, mais la loi est la loi. Et à partir de 18 ans, tu peux être sélectionné, peu importe ta condition, tu peux être invité à te présenter, mais quand tu reçois l'avis de convocation, tu peux demander d'être exempté de te présenter, et tu as 20 jours pour envoyer ta lettre de refus ou ta lettre par laquelle tu demandes d'être exempté, pour des raisons de santé notamment, avec les preuves médicales à l'appui. Alors, tout ça aurait pu être fait, mais évidemment, à partir du moment où la lettre est envoyée dans un centre d'accueil, tu comprends bien que la madame n'est pas en mesure même de répondre à ça. Alors, les juges, en principe, là, les lois de nomination des juges prévoient qu'à 75 ans, c'est fini, tu ne peux plus siéger. Alors, je ne comprends pas pourquoi une personne devrait être jurée à 99 ans. Même à la limite, elle était capable de comprendre et de fonctionner. Être juré, c'est quand même exigeant, hein? T'entends des témoins, des experts, des psychiatres, des chimistes, des pathologistes. T'as plusieurs témoins, t'as une preuve complexe à analyser. Ça prend une bonne tête pour être juré. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait modifier cette loi-là éventuellement pour faire en sorte qu'il y ait un plafond, parce que là, on va se retrouver avec ce genre de situation ridicule, et je pense pas que ce soit un cas unique, là.
Ben non, c'est clair et net. Je pense qu'on en entend parler parce que c'est frappant, là, la dame à 99 ans, mais ça devrait être moins compliqué là, d'être capable de rejoindre quelqu'un pour dire « Hey, buddy, ma mère a 91 ans, elle est pas capable de marcher, elle est pas capable de manger, elle est au CHSLD, on peut-tu s'organiser pour laisser tomber? » Là, elle est menacée de poursuite pour avoir omis de se présenter comme juré. Pas capable de marcher, pas capable de manger tout seul, elle est pas capable d'être alitée. C'est complexe.
J'ai l'impression
parfois,
que la médiatisation du cas va faire en sorte que ça va se régler, mais ça nous amène à nous pencher sur l'opportunité de modifier cette loi-là pour nous assurer que, tu sais, si on considère qu'un juge qui est en exercice, avec toute l'expérience qu'il a, toute la formation qu'il a, doit cesser de siéger à 75 ans, si on considère que pour avoir un permis de conduire à partir de 70 ans, on demande des vérifications médicales, s'il y a des troubles cognitifs, on est susceptible de perdre notre permis. On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Alors, on sait qu'avec l'âge, les facultés diminuent. Je pense qu'à 99 ans, si on veut avoir un jury qui est crédible et qui est fonctionnel, malgré toute la sympathie que j'ai pour les gens de 99 ans, je pense qu'on a atteint un niveau là où on devrait penser à les servir plutôt qu'à leur demander de servir les intérêts de la justice. Si vous avez un avis comme quoi on vous demande de comparaître comme juré, parce que vous pouvez n'importe quand, dès que vous êtes adulte, recevoir ça chez vous par la poste, répondez. Si vous n'êtes pas capable, pas disponible, malade, quoi que ce soit, répondez, parce que sinon, vous pouvez être l'objet de sanctions. Il faut comprendre aussi que les gens ne se précipitent pas pour être jurés, hein. Alors, c'est pour ça qu'il y a des exigences dans la loi. Parce que si on demandait aux gens, ça vous tente-tu, je pense pas qu'il y a grand monde qui pourrait y aller. Et je pense pas que ça intéresse grand monde de participer à un procès, d'être juré, d'être séquestré pendant des jours, des semaines, des fois des mois, pour écouter une preuve et délibérer et être complètement séquestré. Parce que pendant que le jury entend la cause, évidemment, vous n'avez pas votre pleine liberté, là.
Effectivement. Mais je me mets à la place des deux policiers qui seraient chargés d'aller voir la dame au CHSLD pour lui passer les menottes, hein? Ah, oui.
Ouais, je pense qu'il y a un juge qui pourrait se fâcher si jamais la madame arrivait en civière au palais de justice.
Ah, je sais pas, hein? Je pense que oui. Hey, Maître Bellemare, vous faites partie d'une génération qui est pas la mienne, là, une génération qui vous nous avez enseigné les bonnes manières. Est-ce que vous avez eu ça, vous, un compte conjoint?
Moi, j'ai jamais eu de compte conjoint, mais je sais que c'est la grande mode, là, la copropriété, les comptes conjoints. Et écoute, c'est toujours un problème quand tu as un compte conjoint, parce qu'en cas de décès subi surtout, disons qu'il y a, je sais pas, 25-30 000 $ dans le compte conjoint.
Ça gèle.
Et généralement, c'est des conjoints qui ont un compte conjoint, là, mari et femme, ou bon. Et s'il y a un décès. Ça cause toutes sortes de difficultés parce que la procédure, c'est que la banque ou la caisse populaire gèle le compte.
Exact.
En attendant que le notaire puis que le gouvernement donne les autorisations pour pouvoir dégeler le compte, pour nous assurer que le testament est bel et bien respecté. Alors, ça cause tout un chaos dans les cas de décès, mais là, le gouvernement a remédié à ça avec une loi dont le titre est long comme le bras, mais en tout cas, retenez que c'est la loi sur les comptes conjoints. Et ça a été adopté le 8 décembre dernier, juste avant les fêtes. Ça a passé un peu sous le radar. Il y a grand monde qui en a parlé. Mais les comptes conjoints, à partir de maintenant, sont accessibles aux conjoints survivants jusqu'à concurrence de 50 %, à moins qu'il y ait eu, à l'ouverture du compte conjoint, une déclaration comme quoi c'était plus que 50 %. Ça veut dire que si tu ouvres un compte conjoint avec ta conjointe actuelle, puis qu'il y a, je sais pas, il y a 10 000 $ ou 20 000 $ dans le compte conjoint. Et à ce moment-là, la banque est obligée de te dire, si vous ouvrez un compte conjoint, vous allez devoir remplir une déclaration dans laquelle vous allez partager, en cas de décès, le compte conjoint. Ça veut dire que toi, tu peux dire, ben moi, je veux 70 % puis ma blonde va avoir 30 % Tu peux faire ça. La banque est obligée de te l'offrir et cette déclaration-là est confinée dans le compte. Puis au moment du décès, tu auras accès à 70 % si c'est le chiffre qui a été noté dans la déclaration. Autrement, s'il n'y a pas eu de partage anticipé ou de déclaration de signer, à ce moment-là, c'est 50-50. Ça veut dire que tu auras accès, sans permission de quiconque, à 50 %. Puis l'autre 50 % de la personne décédée, mais là, c'est selon ses volontés, selon la succession que ça sera distribué.
Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de comptes conjoints comme on a connu dans le temps, c'est-à-dire les deux payes tombaient dans le même compte puis tout le monde se partageait tout.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui arrive de façon générale parce que ça facilite beaucoup la gestion des finances de la famille, le loyer, l'épicerie, les enfants, etc. Mais au moins, c'est une bonne chose. C'est sûr que tu n'auras pas la possibilité, si tu as un compte conjoint et ta conjointe décède, c'est conjoint et ex-conjoint, soit dit en passant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent plus ensemble et qui ont quand même gardé un compte conjoint pour des raisons de facilité ou qui ont oublié de le fermer ou peu importe. À ce moment-là, si tu décèdes l'autre conjoint, tu ne peux pas aller chercher tout le mouton et t'en aller avec, là, parce que ça ne serait pas juste, ça ne serait pas équitable. Cette personne-là a des héritiers. Et peut-être que tu n'en fais pas partie comme conjoint ou ex-conjoint des héritiers. Alors, il faut s'assurer que la portion, au moins jusqu'à la concurrence de 50 % s'il n'y a pas eu de déclaration, puisse aller selon les volontés de la personne décédée.
Parce que, tu sais, moi, actuellement, pour la maison, le seul compte conjoint que je peux avoir, c'est vraiment le compte avec la caisse, l'hypothèque. Tu sais, on dépose chaque semaine, on dépose un montant pour les taxes municipales et tout ça. Mais dans le temps, tout le monde mettait leur argent à la même place. Puis si jamais il y a quelqu'un qui décédait, ben là, ça gelait le compte pour des mois et des mois, le temps que le notaire arrive dans le dossier puis règle tout ça. Hey, ça causait des problèmes à des gens, hein.
Oui, des fois, c'est des années, hein, parce que...
C'est des années?
Oui, des fois, ça peut être des années. Si jamais la chicane pogne, puis Dieu sait que les successions, c'est un nid à chicane immense, n'importe quel avocat va te le dire. On ne sait pas tout le temps, mais après funérailles, là, souvent, il y a des chicanes, il y a des testaments qui sont contestés, il y a des... papa m'avait donné ci, papa m'avait gardé le chalet... papa m'avait promis de laisser son auto. Je veux l'auto. Je veux tel tableau. Je veux tel frigo. Et souvent, il y a des chicanes. Et quand la chicane pogne, ben, le notaire est pogné avec ça. Ça peut durer des années. Puis il y a des procédures qui se mêlent à ça. Alors au moins, le compte conjoint va être protégé. Et vous aurez accès à une partie. La banque est obligée de vous laisser au moins la proportion qui vous est... données. Vous ne pouvez plus ouvrir un compte conjoint maintenant avec un conjoint ou un ex-conjoint sans avoir à signer cette déclaration-là. Puis si la banque ne respecte pas cette obligation-là, bien, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 40 000 $. C'est pas rien. Alors, le gouvernement tient à ce que ce soit respecté. Parce qu'avant ça, ça causait toutes sortes de difficultés. La personne décédait. Tout était pogné avec les dettes, la peine, le traumatisme du décès, gérer le deuil de tout le monde. Les dépenses aussi que ça implique, hein. Il y a des funérailles, il y a les frais funéraires, il y a les pertes de revenus rattachées à ça, parce que comme tu disais, si les deux conjoints, ben, toutes les payes rentrent dans le compte conjoint pour payer les dépenses, ben après le décès, l'hypothèque pour continuer de la payer, les exact. Taxes aussi. Alors faut être capable de gérer ça de façon équitable. C'est ce que le gouvernement a décidé dans cette nouvelle loi qui est en vigueur depuis le 8 décembre.
Maître Bellemare, c'est une chronique écourtée en ce lundi. Je vais m'ennuyer de vous. C'est trop vite. Trop vite. On va être obligé d'attendre une semaine encore avant de vous rejaser. Ça a été un plaisir pour les gens qui veulent avoir des suivis pour des dossiers de CNESST, des dossiers de SAAC, DIVAC. Ces gens-là ont des problématiques. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter via bellemareavocat.ca?
Bien sûr. Vous pouvez me contacter, vous laisser un message par courriel ou par téléphone au 418-681-1227-681-1227.
Toujours un plaisir.
Bonne semaine.
Maître Marc Bellemare, à qui on parle à chaque lundi. Ben oui, c'était courté aujourd'hui, puisqu'après la pause, on jase d'immobilier avec Simon Laberge. Beaucoup de changements là, qui vont avoir lieu cette semaine. La banque qui va grimper un genre de 0,25 supplémentaire, c'est ce que tout le monde se doute pour ce qui est de mercredi. Donc, Banque du Canada, bien entendu. J'ai hâte de voir ce que Simon a à nous dire là-dessus. Par texto, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Le soir.
À Boulevard 101, on aime ça s'énerver le pompon. Ça tombe bien, le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, est de retour du 3 au 12 février. Des spectacles musicaux d'artistes dont Ariane Moffat, Corias, Borges et Matt Lang, le camping de bonhomme Vidéotron, la glisse urbaine, la virée des sculptures Banque Scotia. Ouh! Procurez-vous votre effigie à seulement 25 $ dans les couches tard participants au carnaval.qc.ca ou écoutez Boulevard 101 pour gagner le vôtre. Avec le Carnaval, énerve-toi le pompon!
L'hypnose thérapeutique avec AD Hypno et Alexandra Ducharme, maître praticienne en hypnose thérapeutique certifiée. Reprenez le pouvoir sur votre vie par l'hypnose. Habitudes alimentaires, motivation, sommeil, anxiété, préparation à un accouchement. Accédez à votre plein potentiel. ADHypno.ca.
Marie est pas rentrée au bureau ce matin?
Non, elle fait de la fièvre.
Oh, elle est bien attentionnée.
Ça, c'est une femme de principe.
En plus, elle met un masque au centre d'achat et elle se lave les mains pendant 20 secondes.
Moi, le monde trop parfait, là.
Et quand t'as mal à la gorge, qu'elle tousse ou qu'elle coule du nez, elle met un masque aussi.
Ah! Ça, c'est une femme droite.
J'en reviens pas.
Elle a le savoir-vivre dans le tapis. Moi, ça me touche.
Je suis ému.
Je lui donne ma chaise de bureau.
Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Un message du gouvernement du Québec.
Le Centre de services scolaires des découvreurs t'invite à sa journée recrutement. Viens découvrir nos environnements de travail collaboratifs, stimulants et enrichissants. Entrevue sur place. On a un emploi sur mesure pour toi. La journée recrutement des découvreurs. 27 janvier dès 8h30 au Centre administratif sur l'avenue Wolfe.
Si de voir ta femme une semaine par mois, c'est bien en masse, ben viens travailler dans le Nord. Avec FDF Construction, plusieurs postes disponibles.
Journalier, charpentier, estimateur, chargé de projet, plâtrier, peintre, poseur de revêtements et carreleur.
La paye est bonne. Envoie ton CV à carrière.fm ou le fdfconstruction.com.
Du nouveau pour Catherine Labrec, courtier immobilier. Découvrez Immobilier C. Labrec. Une expérience vraie et personnalisée. Classée 4e sur 2400 courtiers Royal Lepage au Québec, Catherine vous accompagne pour vendre ou acheter de Portneuf à Beauport jusqu'à Stoneham. ImmobilierCelabrec.com.
Vapdepot, la plus grande chaîne d'articles pour vapoteurs au Canada. Vapdepot.ca, plus de 45 magasins au Québec et en Ontario. Vapdepot.ca, un service de qualité supérieure. Visitez-nous sur le web pour savoir comment vous procurer nos produits au Vapdepot.ca. Franchise disponible.
Pépinière et paysage Marcel Marais, une entreprise horticole renommée qui produit des végétaux et réalise des aménagements paysagers. Pour la prochaine saison, plusieurs postes sont à combler avec ou sans expérience.
Chargé de projet horticole ou manœuvre. Bonnes conditions et super belle ambiance. Visitez Pépinière et Paysages Marcel Marais sur Facebook.
Dans les parties de famille, il y a toujours un cousin qui a quelque chose à vendre. Si le tien t'a convaincu puis que t'es intéressant pour vrai, dis-lui de postuler en vente chez YouEat, une entreprise de Québec de logiciels de commande en ligne pour les restos. YouEat, UEAT.io pour postuler.
Aliments du Québec est à la recherche de la meilleure recette mettant en valeur les aliments d'ici. Vous rêvez d'animer une émission de cuisine? Vous adorez cuisiner avec les aliments d'ici, vous possédez une recette qui fait l'unanimité, faites rayonner votre recette auprès de toute la province. Les gagnants présenteront leur recette lors d'une capsule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux d'Aliments du Québec et remporteront une carte cadeau d'épicerie de 250 $ en plus d'une expérience de tournage inoubliable. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour participer. Rendez-vous au alimentsduquebec.com.
2023, c'est un nouveau départ et il sera splendide au volant d'une Mitsubishi de Paquette à Lévis. RVR Eclipse Cross, Outlander. Plusieurs 2023 arrivent en janvier chez Paquette Mitsubishi. Plein de modèles, de choix, de couleurs. Profitez de taux compétitifs, de la meilleure garantie de l'industrie et du service impeccable offert par Donald et son équipe. Peu importe la direction que vous voulez donner à cette nouvelle année, allez-y en Mitsubishi de Paquette à Lévis. Mieux construit, mieux garanti.
Vous cherchez des activités novatrices pour vos équipes de travail? La Centrale 79 et Bob in the Box vous offrent des activités de team building unique et innovante sur iPhone géant. Réservez une salle ou vos activités d'entreprise dès maintenant. Coin Henri IV et Boulevard Amel, lacentrale79.com.
Je viens d'aller voir mon chum au salon funéraire. J'aurais aimé le voir dans notre salon, celui dans la maison qu'on vient d'acheter ensemble. Mais ça arrivera plus jamais. Parce que mon chum, il s'est enlevé la vie. Si je vous en parle, c'est parce qu'à chaque jour, il y a plus de 200 personnes au pays qui tentent de s'enlever la vie. 12 vont y arriver. Comme Alex.
On doit changer ça. Le 25 janvier, c'est la journée Belle Cause pour la cause.
Vous avez un projet de construction ou de rénovation? Venez rencontrer nos designers cuisinistes chez Armoire Lévis qui vous proposeront un service personnalisé pour votre cuisine et votre salle de bain. Nous fabriquons du sur-mesure depuis plus de 40 ans. Pour un bel espace de vie, armoirelévis.com.
Les condos à louer, la station à Beauport sont conçus pour les adeptes de vélo, de jardinage, d'entraînement, de baignade, de marche, de billard, de lecture, de rencontres et même d'apiculture. Ces unités neuves, spacieuses et lumineuses ont beaucoup à offrir. Informez-vous au immeubleroussin.com.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir.
Simon Laberge qui vient de rentrer en studio, simonlaberge.com. Salut mon ami!
Hey, salut, ça va?
Ben oui, ça va très bien, très content de te voir. C'est quoi, t'as-tu une petite pastille, là? Je l'ai-tu entendu?
T'as pas de petite pastille?
Ben oui, t'as une petite pastille. C'est qui se passe? Tu m'as la gorge?
Ben, je sais pas trop. C'est un aller-retour, on dirait.
C'est un aller-retour?
Ben oui, on dirait des fois, je sais pas trop, ça va bien. Plein d'énergie, tout est beau. Des fois, ouais. Tout, on dirait 15-20 minutes, la voix est plus basse un peu, puis ça se replace.
Mais tu connais le secret? Tu vas à la pharmacie, c'est tu demandes au pharmacien, la petite affaire, oui, ça ressemble à une petite fusée.
Je sais que toi, c'est régulier chez vous, mais moi, ça m'intéresse moins un peu.
Ouais, voilà. Mine de rien, on parle d'immobilier ce soir avec Simon Laberge. Qu'est-ce qui va se passer mercredi concrètement? Là? On parle du taux directeur, encore une augmentation. Je pense que c'est la 8e de suite. Simon, ça va être l'enfer pour les gens qui vont re-signer leurs hypothèques dans les prochaines semaines. Il y en a qui vont trouver ça excessivement difficile.
Ouais, ça, c'est sûr. Ben écoute, juste donner un aperçu, là, on ne sait pas c'est quoi la hausse. Là.
Ça va être un selon les analystes, là, les experts dont je ne fais pas partie, c'est un 0.25 encore.
Ben, c'est ça.
Un quart de point.
On parle d'un quart ou un demi, là, selon tout dépendamment qui qu'on entend et qui qu'on écoute. Mais l'idée dans tout ça, c'est que genre, avec quelqu'un qui est du domaine financier là, pas plus tard que la semaine passée. Généralement, Yannick, t'as-tu une idée, c'est les gens qui ils sont en retard sur leur hypothèque. Quand je veux dire retard, c'est t'es allé en vacances, c'est 2 jours, t'as oublié de faire ton transfert, puis ça, c'est un retard de quelqu'un qui est juste et oublié de faire son paiement. C'est une erreur, si on veut.
Ça, c'est pas comptabilisé dans ce que tu vas me dire.
Oui, ça l'est. Là, OK. Puis t'as quelqu'un qui régulièrement il est en retard. Tu sais, des fois, il est en retard d'un mois, 2 mois, puis il essaie de se rattraper. Tout ça combiné, d'habitude, c'est quoi, tu penses, d'après toi, le retard normal?
En pourcentage?
En pourcentage, oui.
Ouais, je te dirais qu'on doit avoir un bon 5 à 10
%C'est 3 %.
Puis tabarouette.
Aujourd'hui, c'est quoi, tu penses?
5 à 10 %?
14. On est presque à 5 fois.
Ouais.
Fait que, puis là, c'est pas du...
C'est l'inflation, c'est le fait que tout coûte plus cher, l'augmentation du prix de l'essence, puis l'augmentation du taux directeur, donc taux hypothécaire.
Tout va avec, fait que là, les gens, ben au lieu d'arriver et de dire qu'il sacrifie quelqu'un, évidemment. Là. Fait que là, il essaie d'en donner un petit peu partout, d'après moi, c'est ce que je peux penser. Puis j'écoutais justement aujourd'hui, ce matin, un podcast par rapport aux cartes de crédit. Puis là, il parlait des différentes compagnies, qu'il y a des gens qui ont des retards de 4 à 4,5 milliards par compagnie.
Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a aucun sens,
ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais on va-tu se relever de ça? Ça va prendre plusieurs années.
C'est ça. Si on parle de des gens qui n'ont pas, autrement dit, toi, tu reçois, tu mets 100$ sur ta carte dans un mois, tu le payes à la fin du mois.
Ouais.
Là, on parle de du monde qui font, ils payent le minimum, ils ont 4,5 milliards, mais là, ils pensent que ce monde-là, ils ne payeront pas un moment donné. Là. 4 à 4,5 milliards. Puis là, t'as Visa, t'as Master, t'as American Express, puis aux États-Unis, Discovery, puis il y en a plus que deux, là, compagnie. Il y en a plusieurs. Là.
Mais ça va prendre plusieurs années avant qu'ils se remettent de ça. Mais ils vont certainement s'en remettre. Là. Mais dans le cas où on a 0.25 là, pour ce qui est du point de pourcentage, avec l'augmentation du taux directeur, ça va être autour de quoi? 4,5. Ça va être le plus élevé depuis 2007. Puis je parlais cet après-midi avec Jean-Philippe Vézina. Puis je parlais des fois de la Ligue du vieux poil, tu sais, qu'on peut voir chez Ronald McDonald. Là, ils prennent tout le temps leur café ensemble, puis ils jasent, puis ils nous parlent tout le temps des années 80. 80, comme quoi les années 80, c'était difficile, puis que c'était 20% le taux hypothécaire. Mais en même temps, le coût de la vie n'était pas aussi élevé qu'il l'est aujourd'hui. T'sais, les salaires étaient... Les maisons coûtaient quoi? 60 000?
50-60 000,
c'est ça. Fait que tu sais, je comprends qu'ils ont eu leurs difficultés, là, mais là, actuellement, là, ça a augmenté comme pas possible, Simon. Là. Ils vont faire quoi, les propriétaires de maisons qui étaient sur la fesse? Là, ils vont vendre? Ils vont faire quoi?
Bien, on a des gens, justement, des fois, qui veulent vendre. Là, lorsqu'on les rencontre, on leur indique un peu la valeur de la propriété. On leur donne leur juste sur ce qui est du marché, au lieu de, des fois, adhérer à leur ambition, puis on pourrait quasiment dire leur rêve, de leur souhait.
Ouais.
Alors, c'est ça. Puis il y a des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas vendre. Parce qu'on arrive avec l'équité qu'ils ont sur la maison, ouais, ça fait pas assez longtemps qu'ils l'ont, ils n'ont pas mis un gros cash, puis là on vend, puis ils arrivent avec zéro, des fois en bas 20-25 000. Fait que là, ça peut arriver qu'on dit bon, on va inscrire un petit peu plus haut, on va être audacieux pour essayer de, mais encore là, c'est rare que ça va avoir un succès. Par rapport à tout ça, la propriété n'a jamais été aussi chère depuis que les temps sont enregistrés par rapport au paiement. Même si le prix des maisons a baissé,
ouais,
ça ne s'est jamais ajusté assez pour la différence de coût. Une maison, vous pouvez écouter un exemple, peut-être 1200 par mois, c'est mettons 1800 présentement. Là. C'est incroyable.
Okay. Mais toi, tu es un investisseur, tu es un homme d'affaires. Est-ce que tu continues quand même d'investir malgré que les temps ne sont pas super aux investisseurs?
Ben, l'idée, c'est que là, on essaye de toujours trouver des opportunités.
Ouais.
Il y en a. Ça dépend c'est quoi aussi, qu'est-ce que tu vas mettre comme mise de fonds par rapport au rendement.
Ouais.
Si tu mets peu ou pas de mise de fonds, dans certains cas, ça peut être possible. Le vendeur, il peut peut-être te financer ou quoi que ce soit. Puis tu arrives avec un rendement de presque zéro, ben tu te dis, à la limite, mon argent impliqué est pas grand, fait que ça peut aller. Mais c'est ça. C'est sûr que moi, je suis toujours aux gens, il n'y a pas de bon puis de mauvais marché pour acheter. Par contre, une chose est certaine, c'est que faites vos devoirs, faites affaire avec des professionnels autant pour vendre que pour acheter, ayez leur juste. Pensez pas sauver sur une commission en vendant votre propriété ou encore pire, acheter une propriété sans avoir l'aide d'un professionnel, parce que là, tu te retrouves à dire, je fais-tu le bon achat en achetant comme ça? T'es pas sûr si le prix est bon ou pas. Secondo, tu prends pas d'inspection, tu veux économiser. Écoute, la catastrophe s'en vient un jour ou l'autre, là.
Hey, écoute, tu sais, souvent dans certains quartiers, il y a des maisons qui se sont bâties en même temps. Tu sais, un entrepreneur qui achète deux terrains puis il fait pratiquement deux maisons pareilles. C'est le cas chez nous à Val-Bélair. Là. Ouais. Puis quand j'étais voir les prix des deux maisons, tu sais, il y en a une qui a subi un agrandissement, mais lui vaut un petit peu plus cher que moi. Mais c'est arrivé à.
Municipal, ça.
Au municipal, oui.
Okay, ouais.
Mais c'est arrivé à quelqu'un qui à qui je parlais en fin de semaine. Il me disait que lui, il a fait l'erreur. Il est arrivé comme ça, là. T'sais, il a fait l'erreur de... Il y avait deux maisons. Je pense que la première, sa maison à lui, elle valait 260. Puis la maison à côté était sensiblement pareil, 280. Il s'est dit, m'a vendre ça par moi-même. Ça va bien aller, m'a sauvé sa commission. Il a vendu. Ça a relativement bien été, là, la vente par lui-même. Puis 4 mois plus tard, le voisin a vendu sa maison. C'était sensiblement la même affaire. Comme chez nous, la maison à côté est pareille, les mêmes dimensions et tout. Combien de plus?
Mais je sais pas, vas-y donc. Hein?
138 000 avec un courtier.
Oui, mais c'est ça. Mais là,
138 000 piastres.
Mais c'est des gens, des fois, Yannick, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, puis un jour, ça ne leur dérange pas de laisser une coupe de 100 000 sur la table. Fait qu'ils préfèrent, ils préfèrent acheter une petite pancarte, prendre une coupe de photos par eux-mêmes, mettre ça sur un site Internet, puis penser. L'important, c'est pas combien ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il a économisé quelque chose.
Ouais, mais je comprends, mais c'est quoi? C'est la surenchère qui a fait ça? Le fait qu'il y avait plusieurs acheteurs qui ont vu cette maison-là, qui se sont mis tous ensemble, puis ils ont fait monter les enchères.
Le nombre de fois que je rencontre des gens qui ont tenté de vendre d'eux-mêmes, Yannick, tu devrais voir ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, le temps, l'argent qui a été investi, on prend la propriété, puis j'ai un souvenir de quelqu'un qu'on a mis 20 000 de plus que ce qu'il demandait de par lui-même sur un site connu. 20 000 de plus, OK? Puis on a vendu en surenchère la propriété. Fait qu'au fait, dans sa poche, il a fait plus que ce qu'il demandait de lui-même. Tous les frais payés, etc. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de casse-tête en 4 jours. Ça, c'est un coup de circuit, on va dire, là, mais tu as tellement de courtiers qui travaillent les dossiers, les acheteurs, les précales des banques, c'est tous nous autres qui les a. On travaille ensemble. On ne sait pas pourquoi que toutes les transactions se passent en dehors d'un courtier. Présentement, les ventes, c'est seulement 4. C'est que nous, quand la préqualification se fait à l'institution financière, bien, à ce moment-là, on va dire, la personne de l'institution financière, nous, elle nous réfère l'acheteur. Puis nous, quand on a quelqu'un qui n'a pas de, comment je pourrais dire, il n'a pas été voir son financement, on lui réfère en échange. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben c'est une game, là. C'est un échange de services qui se fait, puis c'est normal.
J'étais à l'aréna de Saint-Ephrem, tu sais, il me raconte ça. Je dis, mais là, t'as-tu raconté ça à tes chums? Je dis, non, j'ai pas dit un mot, même ma femme le sait pas. Il l'a pas dit à sa femme.
OK.
Mais t'imagines-tu sa femme?
Ça, c'est là.
Ben, ça fait, tu sais, il m'a pas dit exactement quand est-ce qu'il l'a vendu, mais c'est dernièrement. Là.
Fait que lui, il aurait pas annoncé à sa femme, mettons, avoir vendu avec un courtier qui aurait pu dire, bon, ben écoute, yes, chérie, on part dans le sud cet hiver, on achète un motorisé cet été, puis...
Actuellement, là, parce que là, mercredi, ils vont augmenter le taux. Là. C'est-tu plus avantageux de payer son hypothèque ou d'investir?
Ça dépend pour qui. Tu sais, il y a des gens qui vont arriver et ils sont prêts à prendre des risques, si on veut. Puis ils vont dire, bon, ben écoute, moi, je veux plutôt acheter un immeuble. Tu peux peut-être arriver et acheter un immeuble, penser que cet immeuble-là, pour toi, bon, aujourd'hui, c'est pas le deal du deal, mais tu l'achètes quand même, puis etc. Moi, il y a bien des affaires que j'ai faites comme investissement, puis je me suis dit, écoute, ça vaut-tu la peine de le faire? Regarde, j'ai acheté une terre un moment donné, je pense que c'est 50 000. Ça rapporte rien. Tu vas prendre une marche, un tour de raquette, puis tu fais un petit feu. Là. C'est ça qu'il y a à faire. Mais ça vaut 4 fois plus aujourd'hui.
OK. Ça a fructifié de cette façon-là.
Jamais j'aurais pensé que ça aurait monté autant que ça. OK? Puis d'un côté, des fois, tu vas arriver, tu vas acheter des immeubles, puis tu vas dire, mais ça, j'ai payé cher, là, c'est une surprise, c'était des petits travaux, le locataire à part, il a brisé, puis etc. Mais là, de fil en aiguille, ben le locataire qui est parti, tu as rénové le logement, fait que là, tu peux mettre un peu le prix qui est actuel. Là, et puis là, il est parti, les changements ils ont été faits. Tu rattrapes ça. À un moment donné, taux d'intérêt se remet à baisser un peu, les valeurs montent. Tu refinances. Hein, gars, non, j'ai ramassé tout mon cash après X nombre d'années. Fait que là, ça est devenu bénéfique.
Oui. Mais c'est ça. Toi, actuellement, toi, ce que tu fais, c'est que tu continues tout simplement d'investir, même si le marché n'est pas nécessairement bon. Tu dis, ben, il y a des endroits où c'est encore possible d'investir puis que ça soit rentable.
Oui, absolument. Puis si tu veux vendre, ben même affaire. Là. Je veux dire, j'ai des gens, on parle avec eux autres. Ah, je vais attendre, là, le marché n'est pas bon, je vais vendre l'année prochaine. L'année prochaine, ça va peut-être être moins cher. Sûrement même.
Mm-hmm. Mais admettons, là, tu sais, comme moi, j'ai acheté au moment fort de la bulle. Là, OK? Puis je sais pertinemment que si je mets ma maison en vente, ça se peut que j'aille moins cher que ce que j'ai payé. Ou encore, ça se peut que j'ai une belle surprise. Moi, la base militaire, quand elle est à côté de chez nous, ça se peut qu'il y ait un militaire qui dit, ben, regarde, ce prix-là, ça me va. Puis en plus, vous avez fait le sous-sol et tout ça. Je devrais pas le dire trop fort. La ville, elle va me dire, quoi, t'as fait le sous-sol?
Ouais, ben... L'adresse, c'est quoi, non?
c'est pas si loin que ça. Là,
Saint-Ephrem, hein, qu'on dit.
Exact, Saint-Ephrem de Beau, c'est là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est où est-ce que je voulais m'en aller avec ça?
Tu parlais des taxes, l'évaluation, puis le deal, si tu revends, peut-être qu'il serait bon ou pas, vu qu'il y a des militaires dans le coin, peut-être que tu ferais un bon deal pareil.
Ouais, c'est ça. OK, bon, actuellement, là, puis on va en reparler, là, j'ai peut-être subi une perte, mais si je reste là 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça se peut que je la récupère, cette perte-là? Mm-hmm.
Ben, de toute façon, anyway, tu louerais quelque part, là, puis une maison en bas de 2000, 2500, là, puis moi, j'ai eu l'occasion de voir ta maison, c'est nous autres qui te l'a vendue.
Ouais.
C'est plus que ça, fait que... Mettons, tu aurais mis 30 000 par année dans de la location pendant 5 ans, ça fait 150 000.
Ouais.
Tu ne perdras pas 150 000 avec ça. Là.
Non, c'est ça.
Si toi, tu perds 150 000 avec ça, là, il va y avoir des clés un peu partout. Là.
Non, c'est ça. Mais ouais, tu sais, on espère tous, là, ceux qui ont acheté pendant la tu sais, dans le haut de la vague, là, tu sais, tu dis, t'as peu, là, s'il se passe quelque chose, une séparation, je sais pas moi, de la maladie et tout ça, tu veux jamais te retrouver dans le trouble, mais tu sais, faut juste pas paniquer. Là, tu sais, je regardais ce que Warren Buffett avait mentionné, je pense que c'est la semaine passée ou là 2 semaines. Tu sais, c'est pas le temps de faire des moves de sans-génie. Là, si, tu sais, retirez pas toutes vos actions en bourse parce que selon vous, ça va mal. Tant que vous retirez pas ce que vous avez mis en bourse, vous l'avez pas perdu.
Absolument.
Laissez-les travailler ces actions-là, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va augmenter.
Je me rappelle pas, j'ai la semaine passée, j'ai écouté de quoi, puis il parlait de la liquidité qu'il y avait, écoute, mais c'est incroyable, là, c'est comme 50 ou 100 milliards de disponibles.
Warren Buffett?
Ouais, ben eux autres, ils sont liquides, là.
Ouais.
Ils pèsent sur le piton, là, pouf, puis il est prêt à acheter, là, direct avec cette liquidité-là, là. Faudrait que je ressorte le podcast que j'ai écouté, là. La liquidité, le gars, il prévoit, là, il est 22 coups d'avance, tu comprends? Là, fait que
ouais.
Lui, il sait que là, ça va s'ajuster. Puis, on s'entend, là, moi, je pense qu'on est dans une genre de catastrophe, récession un peu là, économique, pas à Québec, au Québec,
ça
mais
va
mondial.
Frapper aux États-Unis.
Puis ici, comme d'habitude, ben, on a quand même du plein emploi, pis etc. Je pense que la bulle de la ville de Québec, là, on a comme un cocon alentour. Il y en a qui se plaisent à dire le dôme. Là. Ça, là, c'est positif puis c'est négatif.
Le dôme!
Le dôme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va voir des choses là, assez particulières. Comme on a vu il y a une quinzaine d'années, là, 2008-2009, ça l'a frappé, mais je pense qu'on va aller peut-être plus fort, mais plus vite. Ça va retourner très, très, très rapidement, à mon avis.
OK. Mais d'ici là, il y en a qui vont profiter du malheur de certains ou des mauvais moves de certains qui vont vendre à perte. Puis là, mm-hmm. ben, y en a qui vont dire, t'as peu, là, tu vends cette maison-là dans ce secteur-là, tu l'as vendu à perte. Moi, c'est sûr que j'achète ça, puis dans 2-3 ans, je vais revendre ça, puis je vais ramasser l'argent.
Hein. Ben oui, puis il y a des gens aussi, Yannick, il ne faut pas se cacher que il a acheté une maison. Là, un moment donné, il était locataire. Il dit, du monde a peut-être 30, 35, 40, 50 ans. Ils n'en ont jamais eu de maison. D'un coup, ils réalisent, c'est peut-être pas fait pour eux autres. Puis des gens, pour eux, l'argent, c'est plus ou moins important. Ils vont perdre 50 000. C'est pas grave, ça ne dérange pas. Ils vont vendre, puis ils vont laisser ça à lui. Il y en a des gens comme ça, on en rencontre. Puis de l'autre côté, ben, t'as des gens qui sont trop avares. Puis c'est peut-être la personne, justement, qui semble perdre 50 000 aujourd'hui qui va être gagnant
mm-hmm.
plus tard. Puis t'as des gens qui disent, ah non, je ne vendrai pas, je vais attendre. Mais ils attendent tellement qu'à un moment donné, ils se rendent à l'évidence de vouloir vendre, puis ils vendent à la dernière minute. Faites ce que vous avez, le feeling, ce que vous voulez faire. Puis on voit des fois, justement, on rencontre des gens, ben, l'année passée, avait les 400, là, tu me dis 325, mettons, cette année. Puis là, ben moi, le mec que j'achète, c'est cher, mais vous êtes dans le même marché. Là. Ça change zéro. Si vous voulez vendre, agrandir, rapetisser, faites-le. Faites-le, empêchez-vous pas. Parce que si vous auriez vendu, mettons, au maximum, ben, vous auriez payé le maximum de bord.
Ouais.
Ça ne change absolument rien. Là. Tout s'équivaut. Là.
OK. On en parlera un peu de la perte pour ce qui est de certaines maisons dans les prochaines secondes. Mais je suis un jeune investisseur, Simon. J'ai acheté, je ne sais pas moi, un immeuble 3 logements. Puis je regarde le taux hypothécaire. C'est juste en renégociation. Là. Ça monte. Puis je regarde le chèque que les locataires me donnent chaque mois. Puis faut que je pige dans mes poches. Tu me conseilles quoi? C'est quoi je peux faire, tu sais, si ce n'est que d'augmenter mon locataire avec un faible pourcentage, mais en même temps, je ne veux pas le mettre dans la rue non plus. Là.
Non, ça, ben oui. Mais en passant, cette année, les augmentations sont plus hautes que jamais, là, d'après ouais. moi, avec les calculs. Je n'ai pas reculé de 20 ans, mais...
Écoute, je regardais le tribunal administratif du logement. C'est de 3 à 8 %. En 2022, il y avait permis un 4 %. En 2022, là, si on se fie au cas qui avait été entendu en audience. Et là, cette année... on parle plus là, de ça pourrait aller jusqu'à 8 %.
Mmh. Oui, c'est 2,9 à 8,1, 8,2, c'était mazout. Là.
Ouais.
Fait que dites-vous que ça va ressembler à pas loin de 5 %.
Fait là, que 1 000 $, c'est 80 $ par mois.
C'est ça. Ça commence à paraître. T'es rendu à 1 000 à la fin de l'année pour un locataire. Puis là-dedans, ben si l'an passé, il octroyait 4, moi, je pense cette année, c'est parce que ça, ils vont avec un peu la moyenne des jugements qui ont été accordés.
Mmh.
Fait que là, cette année, il y a eu plus d'inflation, on va être dans le 5-6. Fait que ceux qui ont envoyé des augmentations, mettons, de 5 %, puis ils se disent, j'ai hâte de voir, là, ça risque d'être ça. Là.
Hey, ma belle-mère, là, j'en ai parlé la semaine passée, puis j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est autour de 130 $ par mois que son propriétaire lui demande.
Mais c'est un logement presque neuf?
Non, c'est pas un logement presque neuf. Et dans Sainte-Foy, là, écoute, elle est proche de Miran, mais dans le bas.
OK. Mais c'est ça, ben écoute.
130 $ ouais, par mois.
Si elle paye, mettons, 1 500 ou 2 000, c'est...
OK, ouais, je comprends, mais non, non, c'est vraiment un appartement qui vaut peut-être, je te dirais, 700-800 $ par mois. Là.
OK. Tu n'as pas pensé l'aider pour...
Oui, ben j'y ai aidé. J'ai dit, on conteste. J'ai dit ça, on conteste. Là, c'est beaucoup trop élevé. Mais tu sais, qu'est-ce qui aurait été peut-être acceptable de sa part? Puis surtout que, tu sais, j'ai demandé, ils ont-tu fait des grosses rénovations? Elle dit, non, pas toutes. Ils ont touché à rien. Ils ont-tu changé Prolor? Ils ont-tu mis des comptoirs en marbre?
Ils ont mis des beaux Prolor neufs.
Mais c'est juste qu'eux autres, tu sais, ils doivent avoir vu l'augmentation du taux hypothécaire. Là, puis on dit, regarde, on va essayer le
tout pour le tout.
Le hein. tout pour le tout, puis on va demander aux locataires de compenser. Mais je veux dire, les locataires ne peuvent pas avoir une augmentation de 130 $ par mois, puis pas chialer, ça n'a pas de bon sens.
Parce que c'est sûr que si tu arrives avec 130 sur 700, c'est exagéré un peu. 700-800, en tout cas, ce que tu dis. Là, mais faudrait voir, c'est du cas par cas. Hein, fait qu'on peut pas porter jugement à ça. Peut-être que...
Mais c'est à partir de quel moment que c'est illégal, là, tu sais? Moralement, là.
Non, c'est pas moralement, c'est un calcul, là. C'est super simple. C'est par rapport, justement, à la régie donne un chiffre. Après ça, pour l'augmentation de cette année-là, là, après ça, il y a les coûts, les taxes, les assurances, les rénaux, etc. Fait que tu peux arriver, puis c'est un montant juste. Là. Si tu t'en vas contester, là, ça va donner, mettons, ils vont dire tu peux augmenter ton loyer de 12,98, ils ne seront pas 13$.
Oui. Le TAL dit un logement chauffé au mazout avec un loyer mensuel de 1 000 $ pourrait coûter jusqu'à 80 $ de plus par mois, donc 8%. Mm-hmm. Après l'augmentation des taxes municipales, un logement de 1 000 $ chauffé au gaz naturel pourrait dorénavant coûter 1 052, donc une augmentation de 5,2%. Puis après l'augmentation des taxes municipales, un logement de 1 000 $ chauffé à l'électricité pourrait dorénavant coûter 1 034 $. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est 3,4%. Là.
Mais ça, c'est les tarifs de base. S'il y a eu des travaux, puis toi, tes coûts d'opération ont augmenté plus que la moyenne, bien là, ça va être plus. Puis d'un autre côté, ben si c'est moins, ben c'est moins aussi. Là.
OK. Puis quand tu me dis, Yann, un nouvel édifice dans lequel il y a des logements, y a-t-il une règle différente?
5 ans. Si l'immeuble est neuf, on peut augmenter comme on veut pour les 5 premières années.
Yeah, boy.
OK. Fait que souvent, tu vas voir ça. Les gens, ils disent, ben regarde, va là-bas, le loyer n'est pas cher. C'est juste 1 200 $ pour ce qui est 2 000 à côté. Là, tu vas emménager là-bas, tu t'installes. Au lieu de 1 200, l'année suivante, c'est 1 500. Ils ont le droit à l'augmentation de 25% en claquement de doigts.
25%?
Ah, il pourrait monter de 1 000 $.
Non, mais qui va accepter ça? Là?
Ben, ils n'ont pas le choix, c'est ça. Là.
C'est ça où tu pars?
Ah, mais ils sont au courant que ça va arriver. Anyway, là. Fait que souvent, il reste 2 ans, le monde, ils redéménagent dans un autre immeuble, puis ils sont habitués, ils font la stratégie à plusieurs reprises.
Hein. OK. Dans un article de Michel Gérard, je ne sais pas si tu as lu ça, là, c'est dans le Journal de Québec, ça a paru le 20 janvier, puis ça a passé pas mal inaperçu. Il parle du marché immobilier résidentiel qui est en forte correction, et ce, partout au Canada. On en avait parlé, toi et moi, puis j'en avais parlé aussi avec un fiscaliste, un planificateur financier en nombre, puis un économiste. Puis ce que l'économiste disait, c'est qu'à Québec, on allait être peut-être un peu moins touché pour ce qui est du marché immobilier en raison du fait qu'il va y avoir énormément d'argent qui tomberait sur Québec dans les prochains mois, prochaines années, en raison du fait qu'il y a des fonctionnaires aussi à Québec. C'est avec toi, j'en avais parlé, ça. Mm-hmm. En raison du fait qu'il y avait le taux de chômage était très, très bas. Puis, effectivement, quand on regarde les chiffres, là, écoute, sur l'île de Montréal, je pense que c'est la diminution la plus marquée. Là. Le prix moyen des maisons aurait baissé de 16,8%.
OK, ouais.
Donc, une unifamiliale qui valait 653 000 $, ben, aurait perdu 131 800 $. C'est tout ça? Non, ça n'a comme pas de bon. Oui, c'est ça. 131 800 $.
Mais c'est sûr que Montréal, c'est plus affecté que... C'est une région où les hausses sont plus rapides puis les baisses sont plus rapides. Prends un exemple. Toi, tu dis, bon, ben moi, regarde, je suis allé en Floride là, durant les fêtes, là, je vais m'acheter un condo là-bas. Là, l'économie va bien, tout le monde va acheter un condo en Floride.
Tu vas nous acheter un condo là-bas, c'est ce que tu as dit?
Pas ça, j'achèterais de quoi avec toi? Tu pourrais y aller si tu veux.
Ah, mais je suis pas obligé de payer.
Pas de problème avec ça.
Mais je peux y aller si je veux.
Tu pourrais y aller si tu veux.
C'est fait.
Fait que toi, tu vas là dans le temps des fêtes, tu
Noël dis, bon, prochain. Regarde, oui.
je me plais, je vais investir, j'achète un condo. OK? L'économie va bien, le marché boursier est en hausse, tout va bien. Les gens, ils vont vouloir partout dans le monde acheter un condo en Floride parce que c'est mondial.
Ouais,
ça va?
Ouais.
L'économie se met à mal à l'œil. Qu'est-ce que tu vends en premier, ta maison ou ton condo en Floride? Fait que là, les courbes sont beaucoup plus rapides et aiguës qu'un marché comme Québec où c'est des... On l'a vu, ça a monté pendant 20 ans tranquillement.
Tranquillement, oui.
Puis là, ça redescend tranquillement. Puis tu veux dire, bon, mais encore pire que ça, t'achètes à Vegas. C'est un marché, c'est hyper, des courbes hyper carrées. Tu regardes les graphiques, là, c'est comme en dentiste.
Okay, c'est très drastique là,
exactement.
Comme changement. Okay.
C'est ça. Tandis que si tu as des villes comme nous autres qui sont plus fonctionnaires ou ce que c'est plus tranquille, tu vas une stabilité. Les courbes sont longues et rondes, si on veut. Mm-hmm. Tandis que dans un marché où ce que c'est du touriste, là, ça va être vraiment radical. Là.
OK. Donc, pour ce qui est de la correction immobilière par région, là, Montréal, un unifamilial qui valait 653 200, elle a subi une perte de 16,8%, donc 131 800 $ de moins. Pour ce qui est des copropriétés, 435 000, on descend ça de 30 000 $, donc 6,5%. Puis, on parlait de Montréal, mais Laval aussi, là, écoute, c'est 19,1% de perte.
Ouais, c'est beaucoup.
Pour les maisons en moyenne.
Pourquoi tu penses?
Ben, c'est à côté de Montréal.
Ouais, mais pourquoi qu'il y a plus l'autre qu'à Montréal?
Je sais pas.
Le monde conduise. Fait que l'essence a un impact.
Ah.
Quand tu vas, la distance n'est pas si longue que ça, mais tu attends une demi-heure avant d'avancer un kilomètre, là, mm-hmm. Ben là, l'essence coûte fait que le prix a amputé la capacité des gens de pouvoir avoir une maison plus chère. Fait qu'il y a une correction de 3% de plus.
OK. Québec, hey, c'est beaucoup... ben, en fait, c'est une bonne perte, là, mais c'est beaucoup moins que Montréal et Laval. On parle de 6,3%. Donc, pour une unifamiliale de 320 qui valait 328 000 $ ou que vous avez payé 328 000 $ l'an passé, ben, on a une perte de 22 000 $ donc 6,3% de perte, ce qui est très minime. Saguenay, 4,5%. Puis je regarde pour ce qui est de Trois-Rivières, 6,7%. Donc, c'est vraiment Montréal et Laval qui sont touchés à l'extrême, là, autour de 20%. C'est drastique quand même, 20%. Là.
Puis là, eux autres, l'échantillonnage, c'est de quelle date à quelle date, le prix?
Je pense que c'est pour 2022.
Parce que si tu regardes 2022, faut compartimenter l'année en deux parties. La première partie, ça a été... une fusée, là, ça s'est mis à monter incroyablement. Puis la deuxième partie, ça l'a baissé. Fait que s'ils disent que ça l'a baissé de 6, c'est que le 6% a contrebalancé la hausse du début. Puis à la fin de l'année, il a réussi à ajouter la moyenne à 6.
Ouais.
Ça a monté, mettons, de 30. Puis là, ben, s'ils disent que c'est 6 que ça l'a baissé, c'est parce que ça a baissé de 36.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand je regardais, c'était pas, mettons, le dernier trimestre. Là. C'était pas sur trois mois.
Non, c'est ça, c'est sur l'année. Mais ça
serait pour 2022.
Fait que dans l'ensemble, le 1er janvier, ça a monté jusqu'à, mettons, au 30 juin. Ça s'est mis à baisser après. Fait que la dernière baisse qu'il y a eu est radicale.
Ouais.
C'est ça qu'il faut retenir de l'article.
Tu sais, je regardais pour ce qui est des taux hypothécaires. Là, il mentionne qu'à partir de fin 2023, ça recommencerait à descendre. Je parlais avec un fiscaliste, Jean-Philippe Vizina, je ne sais pas si tu connais, il est planificateur financier aussi, puis il mentionnait que on ne retrouvera plus jamais des taux hypothécaires à 2%.
Mm-hmm.
Es-tu d'accord avec ça?
Ben,
c'était beaucoup trop bas.
Tu peux jamais dire jamais pour commencer. Un, deux... La fin de 2023, c'est peut-être loin un peu, sauf que dis-toi une chose, tant qu'on n'aura pas un taux plus haut que l'inflation ne se corrigera pas. Puis présentement, on n'est pas encore là. Fait que ils pourront pas dire « OK, on a le taux d'intérêt en haut de l'inflation pour un mois ou deux, de 1,5%, puis ça corrige. » Fait que moi, j'ai hâte de voir, là, mais qui vivra verra, comme on dit. Mais d'après moi, d'ici la fin de l'année, là, il va y avoir une stabilité probablement qui va se placer. Au lieu d'être du 0,25, ils vont peut-être rester à zéro, ils vont être au neutre. Ils vont remonter un peu, ils vont voir qu'est-ce qui se passe. Mais ils ne commenceront pas à baisser en 2023. Oublie ça, d'après moi.
T'sais, en espérant que le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois arrête d'injecter de l'argent, d'envoyer des chèques à des gens qui gagnent 90 000 par année. Moi, j'ai trouvé ça ahurissant. Je pense que toi et moi, on est d'accord. Il faut aider les moins bien nantis de notre société. Puis les chèques, je pense que ça a aidé beaucoup de gens. Mais quand tu vois que la personne gagne 80, 90, 100... Ça y fait 2-3 bouteilles de plus à la sac. Là.
Mais le problème qu'on a, là, je dirais au Québec, puis c'est assez généralisé, mais principalement ici, c'est que les gens, ils aiment ça avoir le soutien du gouvernement, puis ça, puis ils agissent comme un gouvernement qu'on entend dire des fois. Ça passe pas par donner des choses, ça passe par l'éducation. Moi, je veux nourrir quelqu'un. Si je donne un poisson chaque jour, il va attendre le lendemain que j'ai porté un poisson. Je vais lui montrer comment pêcher, puis après ça, il va être autonome.
Ça vient pas de toi, ça.
Tu parles de la pêche.
Cet exemple-là, là.
Ben, c'est des choses qu'on lit un peu partout. Mais on pourrait peut-être y aller à la pêche, c'est vrai.
Ben oui.
Ben oui.
Le petit poisson des chenaux.
Hein? Non, ben on va t'organiser ça.
Ben oui, pas de trouble. Je vais y aller. Puis,
J'espère que tu cours vite.
Oui, oui.
OK.
Ça va vite, pourquoi?
Ben, parce que habituellement, quand je vais dans le bois, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un qui court moins vite que moi. Fait que quand il y a un ours, c'est parfait, je peux me sauver.
Ouais, ça vient de quelqu'un, ça aussi. SimonLaberge.com pour des informations. Si vous avez besoin de vendre votre maison ou si vous voulez acheter une maison, ben, on est là pour vous.
Yes, sir.
Merci, Simon. Bye-bye.
Yes, salut, bye. Marceau, le
soir. Le soir. Jusqu'au 31 mars, achetez votre propriété avec moi, Marilène Côté-Gaudreau, courtier immobilier Remax, et gagnez votre déménagement ainsi que plusieurs autres prix en collaboration avec Construction Michel Daigle, Armand Perrault-Boucherie et Erika Design. concours.marilenecourtier.com. En ce début d'année, j'ai le goût de générosité. Mon nom est Marilène Côté-Gaudreau, courtier immobilier Remax, et je vous offre la possibilité de gagner plusieurs frais reliés à votre déménagement lors de la vente ou l'achat de votre propriété. Deux grands prix, rendez-vous sur concours.marilenecourtier.com.
Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, est de retour du 3 au 12 février. 5 soirées musicales avec Matt Lang, Corias, Ariane Moffat, Borges, Juicy M et Alex Sensation.
Glissade urbaine de 500 pieds en plein cœur de la ville, camping de bonhomme Vidéotron, virée des sculptures Banque Scotia, course en canot gouvernement du Québec, bain de neige Saint-Hubert, tout ça et bien plus pour 25 $. Procure-toi ton effigie dans les couches d'art participants et au carnaval.qc.ca. Avec le Carnaval de Québec, en collaboration avec l'Auto-Québec, énerve-toi le pompon.
Maquis que c'est pas cher! En janvier, profitez d'une promotion sur tous les maquis chez Yuzu. 1,25 $ l'unité à l'achat d'un maquis 5 morceaux. C'est la parfaite raison pour oser et en tester plus d'un. Allez-y, faites-vous plaisir. Yuzu Sushi, c'est toujours bon.
Vous avez un projet de rénovation et ne savez pas par où commencer? Première étape, visitez Juno au 1041 Pierre-Bertrand et demandez conseil à nos spécialistes. Peinture, teinture, décoration, avec 103 ans d'expertise, des idées et des recommandations, on en a chez Juno. Juno.ca. Élégance, confort, féminité. Voilà ce qu'offre le bar à nylon. Retrouvez la plus grande variété de bas et collants sexy et tendance au Québec. Le bar à nylon, c'est aussi une gamme complète de lingerie qui fera monter la température d'un cran avec votre partenaire. Lebaranylon.ca.
C'est la promotion Rabais Météo chez Enviroconfort. Plus vite vous réservez votre date d'installation, plus vous économisez sur votre système de chauffage ou de climatisation. Obtenez 15 % de remise sur une installation avant le 18 février, 10 % avant le 18 mars.